Et dans ce journal, il sera question de Brexit également, avec la pression de Bruxelles qui s'intensifie. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a refusé tout à l'heure toute idée d'un report de la date du Brexit. L'Union se prépare plus que jamais à une sortie sans accord, nous dira Angélique Bouin. En Pologne, la campagne des élections européennes s'est focalisée chez les ultra-conservateurs sur des thèmes anti-LGBT. C'est notre focus du mercredi sur les élections européennes. Reportage à venir de Thomas Giraudeau. Nous irons en Algérie également, où les Algériens estiment que la démission de Bouteflika n'est qu'un début. Que peuvent-ils attendre désormais? C'est la question. L'armée algérienne aura en tout cas un rôle crucial, nous dira Christian Chesneau. Et puis en France, les douaniers continuent leur grève du zèle, notamment aux frontières anglaises et espagnoles. Et puis Emmanuel Macron achève son tour de France des débats avec les élus locaux avant la Corse demain. Il était aujourd'hui à Saint-Brieuc, en Bretagne, pour évoquer les réponses à donner à cette grande consultation. La présidence de la République algérienne est vacante, c'est ce qu'a entériné le Conseil constitutionnel algérien en début d'après-midi, laissant place à un intérim officiel du pouvoir, un intérim qui devrait donc laisser la place à Abdelkader Ben Salah, 77 ans, à peu près aussi détesté que Bouteflika. Le peuple algérien, massé dans la rue, a donc obtenu une première victoire, une victoire fragile mais une victoire essentielle. L'avenir qui se dessine aujourd'hui pour le pays reste incertain. Mathilde Dehimi a rencontré à Alger ce matin deux femmes, Katia et Bira, heureuses mais qui appréhendent l'avenir. Écoutez-les.
Il y a un peu plus d'un mois, on ne pensait pas qu'on allait en arriver là. C'est pas gagné complètement. C'est un début. Enfin, c'est le début de la fin peut-être. Déjà, il y a des têtes qui sont tombées. Il y a des têtes cachées qu'on ne connaît pas, qui font partie du système. Il y a les deux parties FLN et RND qui sont encore là. C'est ce qu'on va revendiquer maintenant, qu'ils partent tous, parce que s'ils sont là, si eux ils restent ici, les oligarques, ils ont arrêté certains comme ça pour peut-être apaiser la colère. Mais pour moi, je ne suis pas tellement apaisée.
Je ne veux ni la mafia, ni toute la pourriture qui est autour et qui ne s'est pas construite qu'autour de Bouteflika, tous les régimes auparavant. Nous, malheureusement, nous avons été brimés, mais la jeunesse d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va nous libérer. J'ai confiance.
Est-ce qu'il y a un risque de voir ce mouvement récupéré par les extrêmes?
Il y a tous les risques, mais on reste vigilant. Les islamistes modérés, ça représente une partie de la population. On peut se concerter avec eux, nous ne sommes pas extrémistes comme eux. Donc la démocratie, c'est recevoir tout le monde et que le peuple vote pour la meilleure démocratie.
Alors les Algériennes et les Algériens sont méfiants, on vient de l'entendre. Ils estiment avoir gagné une bataille, mais certainement pas la guerre. Le chef de l'État par intérim a 90 jours pour organiser une élection présidentielle à deux tours et remettre le pouvoir au nouveau chef de l'État élu. Or, ce processus d'intérim a été mis en place par un système ONI et il vise, selon beaucoup d'Algériens, à laisser au pouvoir ceux qui en sont issus, justement. Celle qui détient sans doute une des clés de la sortie de crise, c'est l'armée. Elle a joué un rôle important dans la démission de Bouteflika, mais quelle peut être son action? Désormais, les précisions de Christian Chesneau.
Au début de la crise, trois acteurs occupaient la scène algérienne. Le président Bouteflika et son clan, l'armée et le peuple dans la rue. Dans la nouvelle phase qui s'ouvre désormais, il ne reste que les deux derniers. Le général Ahmed Gaïd Salah s'accroche à la légalité institutionnelle, tandis que les contestataires, eux, ne veulent pas d'un ravalement de la façade du pouvoir, mais sa reconstruction sur des bases démocratiques. L'armée algérienne reste très puissante, elle fait consensus dans le pays, mais pas forcément sa haute hiérarchie qui a soutenu le système clientéliste de l'ex-président Bouteflika. À ce stade de la crise, le général Gaïd Salah est devenu prisonnier de ses propres engagements, explique un observateur local, notamment quand il proclame que les revendications du peuple doivent être, je cite, entièrement et totalement satisfaites. Jusqu'où est-il prêt à lâcher du lest en ce qui concerne les trois mois d'intérim qui doivent déboucher sur une élection présidentielle? Les hommes qui sont censés mener cette période intérimaire, le président du Conseil constitutionnel, Taïb Belaïz, et le patron du Sénat, Abdelkader Ben Salah, sont deux personnalités décriées et rejetées par la rue algérienne car elles sont l'incarnation de l'ancien système. Vont-elles servir de fusible? On évoque à Alger la possibilité d'une direction collégiale qui pourrait piloter l'intérim, voire organiser une sorte de conférence nationale pour sortir de l'ère Bouteflika. Pour le moment, on ne connaît pas les plans de l'armée nous confie un journaliste local.
Christian Chesneau. Au Royaume-Uni, le chaos politique continue et ça n'est sans doute pas la rencontre cet après-midi entre Theresa May et Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, qui devrait pouvoir y mettre fin. Car à Bruxelles, la pression se fait plus forte que jamais avec cette mise en garde tout à l'heure de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. L'Union européenne n'accordera pas de délai supplémentaire si le Parlement britannique ne ratifie pas l'accord de Brexit. Autrement dit, un nouveau report n'est pas négociable malgré la date du 22 mai évoquée par Theresa May. Si donc aucun report court n'est accordé, un Brexit sans accord pourrait bien être effectif dès la semaine prochaine. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de France Culture à Bruxelles où tout porte à croire que la Commission se prépare à un no deal.
Oui, car ici à Bruxelles, plus personne ne semble croire que Theresa May va réussir à trouver une majorité d'ici le 10 avril, date du prochain Conseil européen. Pas question non plus de revenir sur ce qui avait été décidé à 27 lors du dernier sommet, pas si lointain. La seule concession du jour est la suivante. Si l'accord de retrait qui devait être voté vendredi dernier au plus tard l'été d'ici au 12 avril, alors un report court serait toujours possible. Sinon, la seule option pour éviter cette sortie sans accord reste une demande de report long avec, vous le savez, organisation d'élections européennes et plan alternative crédible. Mais même si on l'espère encore à voix haute, ici, plus personne ne semble y croire. Vraiment, d'où l'appel ce matin du commissaire européen à l'économie et aux finances, Pierre Moscovici. Il annonce que les douanes sont prêtes à faire face à un no deal et invite les entreprises à se mobiliser.
Le message que je lance aux entreprises, c'est préparez-vous, accélérez la préparation, car il ne faut pas qu'il y ait de perte de temps. Et ne nous voilons pas la face. L'hypothèse d'un no deal, elle est défavorable économiquement, elle est défavorable financièrement, et elle entraînera inévitablement des queues, des retards, des adaptations. Ce que nous voulons, et c'est le sens du travail que nous menons, c'est en limiter l'impact.
Et pour gérer ce qu'il qualifie de défi à l'échelle européenne, entre 5 et 10% de douaniers supplémentaires selon les pays ont été recrutés. 900 en Allemagne, 700 en France, 400 en Irlande. Ce sera là qu'il faudra être ingénieux, conclut-il, avec la mise en place de contrôles moins visibles pour ne pas remettre en cause le processus de paix.
Angélique Boin à Bruxelles, merci beaucoup. Et puis l'Europe peut-elle mieux fonctionner à 27? Ce sera justement le thème du grain à moudre d'Hervé Gardette après ce journal en direct du Parlement européen. Et pendant que le Royaume-Uni peine à sortir de l'Union européenne, les autres pays membres sont, eux, lancés dans la campagne pour les élections. Une campagne sur laquelle nous nous arrêtons tous les mercredis jusqu'à la date de ces élections. Aujourd'hui, c'est en Pologne que nous allons à un pays contre lequel la Commission européenne vient d'ouvrir une nouvelle procédure d'infraction dans le viseur. Le nouveau système de sanctions disciplinaires polonais contre les juges qui porte un coup, estime Bruxelles, au principe de l'indépendance de la justice. Autre communauté cible du gouvernement polonais via les réseaux sociaux et les médias, la communauté LGBT, à tel point que l'homophobie est devenue un thème de campagne pour ces élections, notamment dans les rangs des milieux ultra-conservateurs et du parti au pouvoir, le PiS, après une charte adoptée par la mairie de Varsovie. Thomas Giraudeau a rencontré des membres de cette communauté LGBT atterrée par la violence de cette campagne.
C'est une attaque contre les enfants. À la tribune d'un meeting, le président du PiS, Jarosław Kaczyński, a fait de la charte LGBT de Varsovie un enjeu électoral. Kaczyński se veut défenseur des familles traditionnelles face à la sexualisation des jeunes enfants, les cours de masturbation et l'apprentissage des relations homosexuelles qu'imposerait le document. Tout cela sans l'accord des parents. Sauf que ces reproches sont infondés, comme l'explique Hubert Sobecki de l'association LGBT. L'amour n'exclut pas, il a participé à l'écriture de la charte.
Dans la charte, c'est un point très général. Il dit qu'il devrait y avoir des sortes de cours d'éducation sexuelle disponibles. Pas obligatoires, disponibles. Ces cours devraient être basés sur des connaissances scientifiques, médicales, psychologiques, sur les standards de l'Organisation mondiale de la santé.
Les critiques sur le contenu ont rapidement dérivé en attaques verbales à l'encontre des LGBT. Certains membres du parti PiS au pouvoir ont publiquement lié homosexualité et pédophilie. En 2015, avant les élections législatives, les ultra-conservateurs avaient ciblé les migrants. Aujourd'hui, les nouveaux boucs émissaires, eh bien, ce sont eux, les LGBT, pour Ola Bochkowska de l'association L'Amour n'exclut pas.
Les mots ont vraiment un sens et ils encouragent les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Ils pensent que c'est bon, c'est socialement acceptable de détester un groupe de gens, une communauté. Je peux les insulter, je peux leur cracher dessus, je peux même frapper quelqu'un. Ce type d'incident arrive en ce moment. Ici, à l'association, nous sommes en train de nous dire que nous allons installer plus tôt que prévu une nouvelle porte d'entrée, plus sécurisée, on craint d'être ciblés.
Certains amis d'Ola ont déjà quitté le pays, sont partis en Europe de l'Ouest. Pour se sentir plus en sécurité.
Et c'est pour également tenter de déconstruire les clichés et les idées fausses sur l'Europe que la Commission européenne a mis en place un site internet dédié en direction spécifiquement des Français. Ce sont en effet les Européens qui se disent le moins bien informés sur l'Union. Ce site qui s'appelle décodeurdeleurope.eu est accessible depuis ce matin. Il a pour but donc de déconstruire notamment les infox. Charlotte Jousserand.
Il y en a beaucoup qui circulent sur de nombreux sujets. C'est pourquoi la Commission a décidé de réagir. Isabelle Jégouzo, chef de représentation de la Commission européenne en France.
L'Europe fait énormément fantasmer. Alors, il y a des informations qui sont purement fausses. L'Europe autorise les poulets au chlore. Non, l'Europe interdit les poulets au chlore. L'Europe s'occupe de la taille des étiquettes des soutiens-gorge. C'est faux. Ce que l'on fait, qui est vrai par contre, c'est qu'on oblige les fabricants de textiles à dire aux consommateurs ce qu'il y a dans les textiles.
Le site répond aussi à d'autres idées plus générales. Quand on dit l'Europe coûte trop cher, les décodeurs répondent 100 € par personne et par an.
On travaille bien entendu avec l'appui de notre siège à Bruxelles qui nous donne les éléments. J'ai une petite équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ce projet, parmi d'autres choses d'ailleurs. Notre travail, c'est écrire ces informations dans un style qui est le plus accessible possible.
Un travail de mise en forme, mais la représentation de la Commission le répète, les décodeurs de l'Europe n'ont rien à voir avec du fast-checking. Ce n'est pas un travail de journaliste, mais de décryptage. Chaque phrase type est illustrée par Nicolas Vanneau, dessinateur de presse installé en Belgique.
C'est le job de vulgarisation et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que quand vous faites des dessins sur l'inflation, il faut essayer de faire rire sur l'inflation, c'est quand même pas facile. Mais si j'arrive à faire réfléchir un petit peu dessus de manière ludique, bah, je suis content à mon faible niveau. Hein.
Et l'Union européenne a plus que doublé son budget pour lutter contre la désinformation. 5 millions d'euros y sont consacrés cette année.
L'OTAN fête ses 70 ans. Aujourd'hui, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord souffre de vives tensions pourtant entre ses alliés. En témoignent les pressions exercées par les États-Unis contre la Turquie. Washington somme Ankara de choisir entre deux fournisseurs d'armes. Les Russes d'un côté qui doivent livrer à la Turquie un système antimissile et les Américains de l'autre pour un contrat d'avion de chasse. Une pression qui s'exerce sur fond de crise syrienne. Les explications de Bertrand Galichet.
Jusqu'à présent, l'alliance entre États-Unis et Turquie au sein de l'OTAN a résisté tant bien que mal au conflit d'intérêts né de la guerre en Syrie qui a rapproché Ankara de la Russie et de l'Iran. L'accord signé par les Turcs pour l'achat d'un système antimissile russe S-400 illustre la méfiance qui s'est instaurée entre la Turquie et l'Alliance Atlantique. Gérard Chalian, spécialiste de géostratégie.
La Turquie est devenue pour l'OTAN d'une façon générale et pour les États-Unis en particulier un allié ambigu. À l'échelon tout à fait supérieur, il n'y a pas de généraux turcs à l'intérieur de l'OTAN. Ils ne sont pas dans le sein des saints comme les Britanniques, les Français, etc.
Les États-Unis font valoir que le système de défense antimissile commandé par la Turquie à la Russie est incompatible avec les normes de l'OTAN. Parallèlement, le Pentagone craint que les Russes puissent obtenir les secrets technologiques des avions de combat américains F-35 vendus à la Turquie. Les livraisons de ces appareils fabriqués aux États-Unis sont donc suspendues en attendant une clarification des autorités turques.
En France, c'était l'avant-dernière étape de son grand débat. À lui, Emmanuel Macron était à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor ce matin devant des élus locaux qui avaient toute une liste de propositions locales à faire valoir. Face à eux, donc, le président a, lui, pointé la nécessité d'une réponse globale plutôt que des solutions individuelles. Le compte-rendu sur place de Rosalie Lafarge.
La fin approche et ça se sent. Pendant 1h30 de discours, le président revient sans cesse sur la sortie du grand débat et les difficultés qui se profilent.
C'est une immense responsabilité maintenant pour nous tous et pour moi au premier chef, qui va être d'y répondre. Ça ne peut être ni un reniement de ce qui a été fait pendant 2 ans, ça n'aurait pas de sens. Ni un entêtement, parce qu'il y a aussi des messages qui sont envoyés. Le temps dans lequel nous entrons est pour moi celui de la redéfinition du projet national et européen. Regardez le débat que nous venons de vivre comme une série, une addition de demandes catégorielles ou individuelles. J'ai la conviction profonde que si on fait ça, on se trompe. Et vous trouverez toujours des gens qui diront « Moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat ». Peut-être.
Pour savoir si on y a répondu, encore faut-il des réponses et elles se font attendre. Les échanges du jour n'ont pas franchement fait avancer le débat pour le maire de Plunerette dans le Morbihan, Franck Valin.
J'ai retrouvé un président nous redire les mêmes choses. On savait qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas cherché forcément des réponses. Hein. Mais bon, voilà, pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses de nouvelles par rapport à ce qu'on attendait.
Et pourtant, les maires bretons en ont des idées. Ils remettent aujourd'hui à Emmanuel Macron une liste de 10 propositions pour une meilleure égalité des territoires. Et cela passe, entre autres, pour François Cuyandre, le maire de Brest, par une plus grande reconnaissance des élus.
On n'est pas des sous-traitants de l'État, on n'est pas des opérateurs de l'État. Ce qu'on attend, c'est qu'on nous fasse confiance et qu'on nous donne les moyens d'accomplir les missions qui sont aujourd'hui les nôtres. C'est pas forcément complètement le cas.
Les 900 élus bretons réunis à Saint-Brieuc proposent par exemple de renforcer le pouvoir de décision de la conférence des maires au sein de l'intercommunalité et demandent que le préfet devienne leur interlocuteur unique.
Dernière étape en Corse. Demain, Emmanuel Macron ne rencontrera ni le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, qui sera ce soir l'invité du journal de 22h, ni le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Ils ont indiqué tous les deux qu'ils ne participeraient pas à ce débat. C'est une information de la cellule investigation de Radio France avec le consortium international des journalistes d'investigation. La France s'apprête à interdire les modèles les plus répandus de prothèses mammaires. Une décision de police sanitaire sans précédent puisque dès demain, 15 modèles de ces prothèses seront retirés du marché. Elles sont suspectées de provoquer des cancers. C'est une conséquence en France des remous liés au Brexit. Les douaniers français ont entamé une grève du zèle qui dure depuis le 4 mars. Une grève spécialement effective sur plusieurs axes stratégiques. Gare du Nord à Paris, aux abords du port de Calais, dans le Dunkerquois, près du tunnel sous la Manche, mais aussi à la frontière espagnole. Ils demandent, ces douaniers, plus de moyens humains et matériels pour faire face au Brexit. Leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin, leur a proposé une enveloppe de 14 millions d'euros, refusée par les intéressés. Aujourd'hui, les négociations sont dans l'impasse. Les précisions avec vous, Soazic Bourg.
Et les syndicats n'ont qu'une seule crainte, hein, que le gouvernement ne joue la carte du pourrissement du mouvement. Toujours aucune réponse du cabinet de Gérald Darmanin depuis la dernière réunion. Sur le terrain, les agents commencent vraiment à s'agacer, d'autant plus que l'administration réprime sévèrement leur mouvement, selon Vincent Tomaso, le secrétaire général de l'UNSA Douane.
Les menaces de sanctions disciplinaires, envoyer la police pour les empêcher de contrôler, tout est mis en œuvre pour empêcher les agents de travailler, les agents d'exprimer finalement leur mécontentement.
Alors pas assez d'agents recrutés, un salaire trop peu valorisé, un manque criant d'infrastructures. Pour Christophe Abadi, secrétaire national de la CFDT Douane, le gouvernement ne prend pas la mesure d'un possible Brexit sans accord.
Nous annonce qu'on est prêt pour le Brexit alors que c'est un mensonge. Nos locaux ne sont pas construits dans le Nord. Dans les gares du Nord, tous les équipements ne sont pas prêts. On est très très loin de ce qu'annonce le ministre. Alors, heureusement que le Brexit a été retardé parce qu'on n'était déjà pas prêt à la date initiale. On ne sera pas prêt le 12 avril et je crains que même s'il y a un petit report, on ne sera pas toujours prêt, au moins sur les effectifs, puisque le temps de recruter un agent, c'est plus d'une année.
Alors, premiers impactés par ce mouvement, les passagers de l'Eurostar, par exemple. Valérie habite à Londres, elle travaille en France. Chaque jour, elle doit faire 5 heures de queue pour prendre son train.
C'est l'enfer. C'est dur, quoi. Puis ça dure, quoi. Après, c'est une négociation, normalement. Donc, il faut que chacun fasse un pas à un moment donné, parce qu'on est vraiment pris en otage.
Voilà, et les douaniers devraient mener d'autres actions dans les prochains jours, au moins donc jusqu'au 12 avril.
Merci beaucoup, Soazic Bourg. Le conseil d'administration de Renault refuse de verser sa retraite chapeau à Carlos Ghosn, une retraite qui s'élève théoriquement à 765 000 euros par an. Le CA de Renault estime que les conditions de départ de l'ex-PDG de Renault ne correspondent pas à une ouverture de ce régime. Carlos Ghosn est poursuivi pour omission de revenus et abus de confiance. Des faits similaires mais de moindre ampleur, le polémiste Dieudonné est jugé, lui, par le tribunal correctionnel de Paris pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment. Il est accusé d'avoir détourné à son profit les recettes de ses spectacles. Le parquet a requis ce matin 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Dans leur réquisition, les deux procureurs ont fustigé la position de victime dans laquelle s'est placé l'humoriste Mathilde Lemaire.
Non, il n'y a pas de complot contre vous, pas d'acharnement. Vous n'êtes pas un ennemi à abattre, lance le premier procureur. La preuve, selon lui, Dieudonné avait déjà fraudé le fisc en 2003, presque 1 million d'euros, sans qu'aucune plainte à l'époque ne soit déposée au pénal. Pour le ministère public, ce dossier est commun. Il en existe 1 millier par an en France, du même genre. Le dossier d'une société qui dissimule de l'argent liquide, 657 000 euros d'espèces retrouvées dans la maison de campagne de Dieudonné, et à peu près la même somme envoyée sur les comptes de ses proches à l'étranger, surtout au Cameroun. Que Bercy se soit intéressé à un homme qui avait lancé un appel aux dons à ses fans et qui en 2011 par exemple n'a pas déclaré 1 euro de revenus, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, lâche le procureur. Il rappelle qu'au théâtre de la Main d'Or où se produisait Dieudonné, il n'y avait pas de caisse enregistreuse. Le spectateur ne pouvait que pré-réserver sur le net, il fallait payer à l'entrée. Pour les deux procureurs, Dieudonné n'est pas un artiste bohème déconnecté des questions financières, mais bien un homme aux commandes de ce système de dissimulation d'argent, même si c'est sa compagne qui occupe la fonction de gérante et qui est prévenue à ses côtés aujourd'hui. En plus des peines de prison, les procureurs ont demandé contre eux près de 700 000 euros d'amende au total.
Mathilde Lemaire, un mot rapide du temps de demain jeudi pour finir. Beaucoup moins de pluie, des températures toujours fraîches, retour des gelées demain matin. Au plus chaud compté de 8 à 13 degrés du nord au sud, 13 à 17 degrés en Méditerranée.